Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous jeux. Le rendez-vous jeux, c'est l'émission où on parle de toute l'actu gaming, on parle de consoles, de PC, j'ai tendance à dire mobile aussi, mais c'est vrai que mobile peut-être un peu moins. Il n'empêche, on couvre toute l'industrie, analyse, news, impression de jeux, etc., etc. Mais aujourd'hui, on va faire un épisode très spécial puisqu'on va parler uniquement de The Last of Us 2 et en version super méga spoiler. Donc, si vous n'avez pas eu la puce à l'oreille en lisant le titre de l'épisode, eh ben, sachez qu'on va tout spoiler, du 1, du 2, absolument tout. Donc, si vous n'avez pas fini le jeu, je vous encouragerais à ne pas écouter. Si vous n'avez pas du tout l'intention de faire le jeu, je vous encouragerais à revoir vos intentions et à aller faire le jeu quand même. Mais si vraiment vous êtes absolument déterminé à ne pas y jouer, eh ben, vous pouvez écouter. Évidemment, si vous avez fini le jeu et que vous avez envie de savoir voir ce que nous on en a pensé, comment analyser les choses, confronter vos perceptions à celles d'autres, et ben on est là. Quand je dis on, c'est moi, Patrick Béja, très heureux d'être avec vous aujourd'hui et surtout très heureux d'être avec J. Caloret qui me rejoint après un épisode normal d'actu la semaine dernière parce qu'on a hâte tous les deux de parler de nos impressions.
C'est vrai qu'on a hâte d'en parler. C'est vrai que quand tu finis un jeu comme ça, t'as envie d'en parler en fait, et ouais. Tu peux pas. Alors sauf évidemment si t'as la chance de vivre avec quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, etc. Mais moi c'est pas le cas. Donc moi je peux parler à ma femme de The Last of Us, mais bon, ça va pas là. Voilà. Mais évidemment tu peux pas trop en parler sur Twitter. Alors on en parle un peu avec les copains, avec les collègues qui jouent, notamment chez ZQSD. On va faire d'ailleurs sûrement un numéro spécial aussi. Mais là du coup ça fait quoi ? Ça fait 4-5 jours que je l'ai fini. Tu vois, ça me démange de vraiment en parler en profondeur.
Eh ben écoute, c'est ce qu'on va faire ici. Moi j'en ai beaucoup parlé à ma femme aussi, qui a suivi également les histoires du premier, et elle sait que c'est sans doute mon jeu préféré de toute l'histoire du jeu vidéo. Et le plus important, évidemment, pardon, dans ce jeu, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui est la chose, bien sûr, la plus spoilable et puis la plus frappante dans tout le jeu, mais pas que. Je pense qu'on va commencer avec les parties qui sont pas l'histoire, et puis ensuite on va faire une grande, grande discussion sur l'histoire. Quand je dis parties qui sont pas l'histoire, il y a des éléments techniques, le graphisme qui a pas grand-chose à voir avec l'histoire, le gameplay, ça c'est un petit peu... on peut en débattre, hein. Le gameplay s'intègre dans le propos du jeu, mais on va en parler d'un point de vue purement mécanique, le level design, etc. Puis après on va plonger dans l'histoire. Donc, je te propose d'abord le truc le plus clair et le plus simple. On n'a même pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Les graphismes. Si ce n'est pas le plus beau jeu de cette génération de consoles, il n'en est vraiment pas loin. C'est époustouflant de voir ce niveau de détail et de perfection graphique. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus.
Non.
Ah, non, d'accord, enfin,
non,
très bien.
Non, j'exagère. Non, je plaisante. Je me suis posé la question, moi aussi, est-ce que c'est le plus beau jeu de la génération ? Oui, non. Et, alors oui, le jeu est splendide. Et pour moi, l'exploit technique, enfin l'exploit, c'est d'arriver d'avoir réussi à intégrer, à faire tourner tout ça sur une PlayStation 4 de manière assez fluide. Alors, moi qui suis, enfin ça va sembler un peu prétentieux ce que je vais dire, mais moi qui joue quand même beaucoup sur PC, c'est vrai que maintenant je suis tellement habitué aux 60 FPS que il m'a fallu un tout petit temps d'adaptation, mais vraiment pas long, et par moments j'avais l'impression que le jeu ramait un tout petit peu, mais ça ne gâche aucunement le plaisir, surtout dans le feu de l'action, il y a aucun problème avec ça. Si on doit trancher, alors c'est pas le sujet, mais si on doit trancher sur le plus beau jeu de la génération, pour moi, je pense que ça reste Red Dead Redemption 2, ouais, en termes de visuel et d'ampleur technique. C'est un jeu qui est même incroyable. Et n'oublions pas God of War qui, sur pas mal de points, vient vraiment titillé pardon, The Last of Us 2. Ouais. Mais sinon, non, bien sûr, c'est un exploit technique, c'est le jeu est splendide. Et surtout, il y a un sens du. Et ce qui était déjà le cas dans le premier, et c'est là-dessus que Naughty Dog est très très bon, c'est le sens du détail, en fait. C'est que chaque pièce, chaque lieu a une vie, a une histoire, parce qu'ils ont vraiment fait attention à ce que tout soit à sa place, en fait. Chaque objet, chaque chose que tu découvres dans un nouveau lieu, voilà, soit exactement à sa place et pensé pour raconter quelque chose. Et c'est ça qui est incroyable, je trouve, dans les jeux Naughty Dog et encore plus dans The Last of Us 2, c'est qu'effectivement, t'as toujours l'impression d'évoluer. T'as toujours l'impression d'évoluer dans un monde vivant, enfin vivant, en l'occurrence un peu mort là, mais qui a un passé, quoi.
C'est ça qui. Alors c'est pour ça que je disais, si c'est pas le plus beau jeu, il en est pas loin. On est dans le peloton de tête, on va dire. Mais c'est vrai que le monde est tellement bien, plus que modélisé, est tellement bien conçu. C'est-à-dire que tu as vraiment tellement l'impression, encore plus qu'ailleurs, que c'est la vie et les villes qui ont été, on dit en anglais, nature has reclaimed the cities. Tu vois, la nature s'est réappropriée les villes, et encore plus que dans le 1, on a l'impression qu'il y a eu genre 50 ans entre les deux, alors que c'est juste 4 ans, mais la nature est revenue dans les villes, on a encore plus de d'herbe, on a encore plus de destruction des... Enfin bon, bref. Et puis, il y a une question artistique également, tout ce qui est les niveaux sous la neige, le moment où la ville brûle, enfin c'est... Bref, c'est assez... C'est assez majestueux qu'on réalise.
C'est majestueux. C'est majestueux. Et moi, je voudrais quand même faire un big up, c'est pas un big up, mais pardon, j'ai du mal à rassembler mes idées. Je voudrais vraiment mettre en avant aussi les visages et les expressions de visage qui sont, je trouve, par contre, ce que j'ai probablement vu de plus beau là sur cette génération de consoles, c'est un réalisme et les animations des personnages qui s'intègrent, je trouve. Je sais pas comment ils ont fait pour que ça s'intègre aussi bien dans le monde, en fait. C'est vraiment chaque mouvement quand les personnages touchent. Typiquement, il y a un truc qui est très courant dans le jeu, c'est le moment où tu passes entre deux trucs très très étroits. Tu sais, t'appuies sur X pour passer
cacher les temps de chargement, ce qui n'est pas toujours le cas, mais généralement.
Mais là, justement, c'est pas vraiment le cas, parce que souvent ça dure une demi-seconde, et c'est d'une fluidité, d'un naturel. C'est bête, hein, comme truc, mais moi j'ai passé 30 heures à chaque fois que j'appuyais sur X à être admiratif devant cette animation de la façon dont Ellie et Abby passent dans des gravats, dans des choses comme ça.
Il y a quelque chose de très satisfaisant dans tout ça. Pardon, voilà. Je te laisse finir, mais j'ajouterai autre chose après.
Non, et je trouve que, alors ça du coup, ça va plus être peut-être sur la partie de la mise en scène, je trouve que ça participe à la fluidité de l'expérience, en fait, qui est la spécialité de Naughty Dog, hein, depuis Uncharted. Mais là, je trouve que, voilà, les personnages sont tellement vivants dans l'univers, parce qu'ils sont tellement bien animés, tellement beaux en termes de visage, de modélisation, que je trouve, enfin, ça, c'est, pour moi, l'exploit technique, c'est surtout ça, quoi.
Il y a aussi, quand tu parles d'animation, beaucoup de gens et d'animateurs ont célébré l'absence de clipping. Quand à un moment ils enlèvent leurs vêtements ou quand ils s'embrassent, c'est vrai que on n'a pas du tout un polygone qui passe derrière l'autre, ou très tellement peu que ça se remarque pas. Et la physique de la corde et des cordes et des différents types de cordes et de câbles aussi, qui est techniquement impressionnante d'après les experts, etc., etc. Un petit peu lié à ça. Ah oui, je voulais mentionner le sound design, le design du son. Moi, j'avoue que pendant que j'étais en train d'y jouer, je l'ai fini sur une semaine. À chaque fois que je finissais une session et que j'allais, je sais pas, dans la cuisine et que j'attrapais un truc, je me disais, il y avait une sorte d'assimilation entre les bruits et que j'avais dans le jeu et genre ce que je faisais dans ma vraie vie, tellement c'était agréable les bruits qu'il y avait dans le jeu. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais il y a une satisfaction dans tout ça qui est palpable. Le level design a également un petit peu évolué par rapport au 1. Les niveaux sont toujours des sortes de couloirs dans la grande tradition de Naughty Dog, mais je trouve que dans celui-ci, on a beaucoup moins l'impression, ça se voit beaucoup moins, quoi. On a beaucoup plus de chemins, les espaces sont plus larges, etc. Donc au niveau du level design, ça a quand même beaucoup... Ça a été amélioré, même si la philosophie est la même.
Ouais, la philosophie est la même, mais après, c'est vrai que déjà, t'as une zone ouverte, plus ou moins au début du jeu, enfin, qui est vraiment ouverte, donc Seattle,
qui est la seule.
Quand quand tu arrives à Seattle, qui est vraiment la seule zone qui est vraiment ouverte, et ça, c'est assez cool parce que tu as plusieurs points d'intérêt que tu peux aller voir. Et j'encourage d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, si vous écoutez que vous ne l'avez pas fait, je ne sais pas ce que vous foutez là, mais c'est pas grave. mais il faut vraiment passer du temps à visiter chaque pièce parce qu'il se passe toujours quelque chose d'intéressant. Donc, déjà, cette zone ouverte, elle est magnifique. Et effectivement, le level design, notamment dans toutes les phases d'infiltration, slash action, enfin, slash, tu joues un peu de la façon que tu veux, ils ont vraiment ouvert les niveaux, ce qui fait que tu peux quand même aborder les situations de plein de façons différentes. Et alors, c'est pas, encore une fois, ça touche au gameplay, donc on en parlera peut-être après, mais ça encourage vraiment l'improvisation et l'adaptation perpétuelle, en fait, à la situation que tu as en face. Ouais. Tu peux très bien jouer, et ça, c'est très, très bien fait, parce que tu n'es pas obligé de la jouer infiltration du début à la fin. Tu peux très bien passer en infiltration au début, puis après te sortir les pistolets pour tirer et ouais. te faire forcément repérer. Puis t'enfuir, tu auras toujours un coin pour te cacher. Enfin, c'est vraiment, et t'es très organique. Hein. C'est ça qui est génial.
C'est juste sur la zone ouverte, pour moi, c'est un truc que je reprochais à Gears of War 5, et même si c'est moins visible que dans ce jeu-là, la zone ouverte, elle est ouverte qu'à moitié, parce que c'est quand même une zone où tu vas aller à des points d'intérêt, et puis dans le point d'intérêt, c'est un couloir comme t'en as dans tous les niveaux. Donc
oui,
je trouve que
sûr.
C'est un peu, mais c'est vrai que c'est quand même sympa d'explorer la ville comme ça. Mais pour le, bah justement, parlons un petit peu du gameplay. Je trouve que une différence qu'il y a avec pas mal d'autres jeux en stealth, ou alors c'est parce que moi j'y joue pas assez. Généralement, un jeu où tu peux être furtif ou y aller et flinguer tout le monde, tu commences en furtif et puis tu te mets à flinguer tout le monde quand les choses se passent pas bien. Et puis c'est fini, tu vas juste flinguer tout le monde et voilà. Dans celui-là, tu peux vraiment alterner entre les deux. T'es en train d'être furtif derrière ton le truc où tu te caches, et puis les choses merdent, et tu pars en courant, il y a un moment de tension hyper important, et puis t'essayes de te replanquer, et tu peux revenir en mode furtif. Et cette alternance de gameplay, je trouve qu'elle est très réussie dans celui-là, en tout cas.
Oui, c'est ça qui est admiratif, qui est admirable, parce qu'en plus tu peux pas décemment y aller en mode bourrin pendant tout le jeu, parce que de toute façon t'auras jamais assez de munitions et que c'est pas un TPS, quoi. Je veux dire, le jeu ne t'encourage pas plus ou moins à jouer comme ça, sauf quand tu arrives à améliorer tes armes suffisamment. Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux quand même orienter tes personnages si tu veux la jouer un peu plus bourrin. Notamment moi vers la fin, j'avais boosté pas mal de compétences et pas mal d'armes qui me permettaient de quand même d'y aller bien en mode Rambo, tu vois, genre flèche explosive, lance-flamme, et le plaisir que t'as quand tu fais exploser des gens avec ta flèche explosive et en sortant des fourrés, c'est assez génial. Mais effectivement, cette façon de pouvoir courir, notamment la course et la fuite, elle est tellement satisfaisante aussi dans le jeu que t'as vraiment ce plaisir de jouer au chat et à la souris, quoi, tu vois. C'est vraiment un peu ça, quoi. C'est vraiment ça. T'es vraiment la plupart du temps, c'est le chasseur, c'est toi, quoi. Sauf dans les phases, évidemment, avec les infectés. Là, je parle plus des phases avec les humains. Avec les infectés, c'est un tout petit peu différent. Mais
et d'ailleurs, les infectés sont vachement. Je trouve que le gameplay est, dans l'ensemble, assez comparable à celui du 1. Je sais pas pourquoi, moi, je crois que j'attendais quelque chose d'un petit peu plus différent. Peut-être, on est vraiment dans le template du 1 avec des améliorations. Les infectés sont complètement dans le background. À la limite, ils seraient pas là, ça change. Changerait pas énormément de choses. Oui, un petit peu, c'est pas le même type de jeu quand t'es contre des infectés ou contre des humains, mais dans l'ensemble, on a souvent tendance à dire que dans le premier, en tout cas, le gameplay était sympa mais pas incroyable. Là, je pense qu'on sera d'accord pour dire que tout le jeu repose pas sur le gameplay. Évidemment, l'histoire est très importante. Le gameplay est quand même satisfaisant, mais je pense que quelqu'un qui n'a pas aimé le gameplay du 1 n'aimera pas celui-là. Et
non,
ouais,
je pense pas non plus. Ouais. Mais effectivement, ce que je peux reprocher au jeu, c'est que, et justement, ça c'est l'héritage du premier, et que finalement tu sens que ils ont pas pu probablement faire évoluer le gameplay autant qu'ils voulaient. C'est quand même il y a ce côté malgré tout un peu systématique des situations. C'est que tu sais très bien que au bout d'un couloir, tu vas arriver dans une grande zone. Tu sais que dans cette grande zone, il va y avoir 5, 10, 15 personnes, et tu vas faire de l'infiltration. Puis après, tu vas avoir un moment de calme, et puis après, tu vas recommencer. Enfin, tu vois, le rythme affrontement exploration, il est assez convenu, en fait, surtout par rapport au reste du jeu, tu vois, qui te surprend constamment. Là, on va dire, en termes de progression et de mécanique de jeu, c'est relativement plan-plan, enfin pas plan-plan, parce que ce serait exagéré.
Non, c'est répétitif.
Ça peut sembler un peu répétitif, même si pour moi, il y a un truc qui est que je trouve extrêmement réussi dans celui-là, c'est toutes les tous les passages de fuite qui sont parmi les trucs les plus dingues que j'ai vus dans le jeu vidéo, tu vois, en termes de mise en scène, ils sont formidables, quoi.
Bah on va en parler dans la partie histoire, les moments marquants également. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le gameplay, notamment à quel point le propos du jeu est reflété dans le gameplay, dans la mise en scène du gameplay, la violence et la souffrance que tu infliges et que tu reçois qui sont très perceptibles. Mais bon, on ne va pas passer tout l'épisode à parler de gameplay. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme je le disais, mais plutôt que ça, je vais te demander... deux choses. D'une part, est-ce que tu le trouves dans l'ensemble meilleur ou moins bon que le premier ? C'est une question difficile. Et puis ensuite, est-ce que tu as... Il y a la grande question qui s'est posée les premiers jours sur Twitter. Est-ce que c'est un jeu, pour le franciser, dans lequel on prend du plaisir ? Je crois que cette question est compliquée à répondre. Le gameplay, moi, j'ai jamais... pas eu envie de jouer au niveau du gameplay, mais le jeu est certainement difficile, il est dur. Est-ce que tu le trouves moins bon que le premier ou meilleur, et est-ce que tu y as pris du plaisir ou est-ce que tu l'as apprécié ?
Ouais.
Le jeu dans son ensemble, pas que le gameplay.
Ouais, bien sûr. Pour la première question, c'est vrai que c'est difficile parce que je pense pas qu'on ait encore le recul pour juger le 2 par rapport à sa suite. Mais cela dit, par rapport aux sensations que le jeu m'a procurées, sensations pas forcément toujours agréables, hein, mais justement, c'est l'objet de la question d'après, par rapport à tout ce qui m'a fait vivre, toutes les émotions qui m'a fait ressentir, et par rapport à l'audace, en fait, la façon dont, à l'audace dont fait preuve le jeu sur plein de points, je trouve que je dirais que cette suite est plus réussie. Parce que c'est vrai que le 1 posait des bases, le 1 avait quelque chose d'unique, mais le 2 justement te propose autre chose et quelque chose que t'attends pas, et donc rien que pour ça je pense que c'est une expérience très très marquante, et justement c'est une expérience marquante, mais qui effectivement il y a des moments difficiles, mais oui, alors évidemment que j'ai pris du plaisir à y jouer, mais comme je prends du plaisir à jouer à Silent Hill 2, tu vois, Silent Hill 2 qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, mais c'est un jeu qui est extrêmement difficile, c'est un jeu auquel par moment, je me sens obligé d'arrêter parce que voilà. Et The Last of Us 2 m'a un peu procuré la même sensation, dans le sens où, à plusieurs reprises, en fait, dans le jeu, après des séquences vraiment, vraiment soit difficiles, soit suffocantes, soit avec une action tellement soutenue, je me suis dit, ok, je vais m'arrêter là.
Besoin
de respirer un peu parce que voilà. Mais et ça, c'est la marque d'un grand jeu, tu vois. Et je peux pas dire que ça me plaît profondément de ressentir ce genre de choses en jouant à un jeu vidéo. Donc oui, je prends du plaisir, tu vois. Mais c'est pas un plaisir. Comment te dire,
c'est pas un sentiment positif, quoi. C'est pas que tu te sens bien. Mais...
c'est ça, exactement. Et en même temps, et je pense que c'est probablement ce que les développeurs ont voulu tenter de faire. Il y a quand même plein de moments où tu vas tuer des gars de manière extrêmement violente, et tu vas toi-même en retirer un certain plaisir, tu vois. Et tu dis, putain, je suis en train de prendre du plaisir, entre guillemets, à planter mon couteau dans la carotide d'un gars, ce que j'ai déjà fait des centaines de fois dans d'autres jeux vidéo, tu vois. Mais que ça
marque,
complètement anodin. Voilà. Tandis que là, tu vois, par exemple, le jeu a, surtout dans la deuxième partie, je sais pas si c'est fait exprès, mais notamment avec Abby, quand tu vas tuer un mec, et donc Abby n'a pas de couteau, donc elle peut pas tuer un personnage d'un seul coup avec son couteau dans la gorge comme le fait Ellie. Par contre, elle va les étouffer avec ses bras, et à chaque fois que je faisais ça, encore en mode infiltration, la caméra se tournait légèrement, en fait, pour me montrer le visage à la fois d'Abby et à la fois personnage que j'étais en train d'étouffer. Et ça, je suis persuadé que c'est vraiment fait exprès. Qui a choisi d'avoir cet angle de caméra pour te montrer, en fait, le visage de la personne que tu es en train de tuer, et te mettre face un peu à tes actes, mais en même temps ceux d'Abby notamment. Et ce que le jeu, a priori, ne fait pas avec Ellie. Moi, j'ai pas remarqué ça avec Ellie. Avec Abby, pas avec Ellie.
Si, moi j'ai eu avec Ellie à plus d'un moment, et tu sens, et là on revient à la question du gameplay qui est associé au propos du jeu, tu sens la rage et la fureur des deux personnages, surtout d'Ellie, moi j'ai trouvé, mais quand elle est en train de tuer quelqu'un, au moment où elle le poignarde, elle dit « fuck you » et
ouais, ça, ouais.
Tu vois, c'est... C'est pas juste je te tue parce qu'il faut, c'est genre j'ai envie que tu meurs. Et c'est, bah, ça sert, bah, on va en reparler, le propos du jeu. Quoi.
On a l'impression qu'Ellie s'exprime beaucoup plus avec sa voix, en fait. Mmh. Et tandis qu'Abby a plus une espèce de force froide, en fait. Et Abby, déjà, le personnage est absolument génial. Tu vois, c'est ce personnage qui a des bras, enfin, elle est musclée vraiment.
Bah justement, parlons-en de ça. On va revenir à la question du genre du jeu, mais un truc qui est notable, que j'ai mentionné dans mon épisode en anglais, c'est que tous les personnages principaux sont des femmes, tous, et les personnages masculins sont juste des personnages accessoires, ou disons des personnages secondaires. Et ce qui est intéressant, je trouve, alors il y a d'autres choses à discuter sur le jeu, mais c'est que justement, c'est pas un gros sujet sur le jeu. Et je trouve ça, c'est juste une petite note en passant, mais je trouve ça vraiment une avancée positive que malgré le fait que ça soit, tu vois, quelque chose d'un petit peu, de pas très commun, eh ben, on est arrivé, après quelques années de toutes les questions sur la représentation dans les jeux, à avoir un jeu majeur comme ça, où tous les personnages sont des femmes, où c'est pas les gros titres, c'est pas où on n'a pas eu des articles, tu vois, je crois qu'il n'y en a même pas eu un seul, est-ce que les jeux peuvent avoir des personnages féminins ou machin? Non, la question ne se pose pas. Et d'ailleurs, Abby, tu le mentionnais, elle est, mais c'est un personnage qui est à la fois, c'est l'une des premières fois, je crois, qu'on voit une femme si forte, mais physiquement forte dans un jeu, et qui est pas, je sais pas, qui est badass, mais qui est pas excessivement féminisée. Parce que même si Lara Croft, elle est super, elle est super forte, etc., bon, elle est un peu frêle, elle est un peu ceci. Là, c'est la première fois qu'on voit une femme qui est physiquement comme la plupart des hommes sont dans les jeux vidéo. Et pourtant, elle est complètement femme. Tu vois, il n'y a aucun doute là-dessus, il y a plein de choses mais c'est une femme. Et c'est jamais, je ne sais pas, il ne le pointe jamais du droit, enfin, c'est, je trouve ça que c'est un point admirable.
Bah, je pense qu'ils ont trouvé le bon ton, en fait, pour que tout ça soit absolument naturel. Enfin, tu vois, le fait qu'Ellie soit homosexuelle, déjà, c'était déjà acquis si on a fait le DLC du 1, mais bon, tout le monde n'était pas forcément au courant. Mais le fait qu'elle soit avec Dida et qu'elle soit homo, bon, on s'en fout, tu vois. Enfin, on s'en fout, ça ne change rien. Ça change rien, mais en même temps, c'est vrai que c'est un choix délibéré de Naughty Dog qui est super, tu vois. Oui. Mais c'est pas une position en disant, regardez, nous, on met en avant un personnage féminin, homosexuel, machin. Non, c'est comme ça, point. Et ça s'intègre extrêmement bien dans l'histoire. Et ça crée en plus une histoire d'amour qui est magnifique. Mais peut-être qu'ils auraient réussi à faire une aussi belle histoire avec un homme à la place de Dina, tu vois. Peu importe.
Non, là, c'est sûr.
Voilà, c'est comme ça, quoi.
Je pense qu'il y a un choix de faire en sorte que tous les personnages importants, c'est des femmes. Ellie, Abby, Dina, Mel, Yara, bon, Lev qui est transsexuel, mais tu vois, c'est un choix. À ce niveau, c'est forcément une question, quelque chose qui a été décidé. Mais je trouve ça, bon, et on ne va pas en parler plus longtemps parce que ce n'est même pas si important, comme tu le dis, mais c'est intéressant que ça n'ait pas créé une sorte de mouvement de rejet de la part des gamers énervés traditionnels, ou encore que ils ont
eu... Il y en a eu un peu quand même. Hein,
ouais, il y en a eu un peu, ouais, c'est vrai. Mais il y en a eu
bombing,
plus.
Il est aussi comme ça, et en même temps, de l'autre côté, c'est la meilleure vente de l'histoire de la PS4, tu vois.
Mais alors, justement, si on revient à l'histoire, clairement, c'est pas l'histoire de Joel et Ellie. C'est pas l'histoire de Joel, clairement, mais c'est pas leur histoire, c'est pas la continuation de l'histoire de Joel et Ellie. Et j'ai l'impression que la seconde partie de l'histoire, et on va y revenir évidemment, mais comment dire, avant de parler de ça, je voudrais dire une chose sur le genre du jeu, qui pour moi est un truc qui est relativement rare dans le jeu vidéo. C'est une tragédie. On parlait de notre sentiment par rapport au jeu et le fait que c'est pas un truc où on prend un plaisir, on n'a pas des sentiments positifs. C'est une tragédie, en fait. Et il y a des jeux qui ne sont pas positifs dans le spectre du jeu vidéo. Mais là, c'est vraiment une tragédie dans le sens où, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est Roméo et Juliette. Et Roméo et Juliette, c'est 100% jusqu'au bout, incroyablement tragique. C'est triste. Quand tu les vois mourir, spoiler, quand tu les vois mourir à la fin alors qu'ils n'avaient pas besoin de mourir, Roméo et Juliette, et que c'est tellement évitable tout ça, eh bien... C'est quand même l'une des plus grandes pièces de théâtre jamais écrites. Et c'est pas un truc qui fait plaisir aux gens. tu vois, à regarder. Et pourtant, on en retire, bah oui, un plaisir artistique. Et là, on est dans la même veine. Et je trouve qu'il y a beaucoup de débats sur ce point. Moi, je trouve que ça n'a jamais vraiment exactement été fait de cette manière dans le jeu vidéo. Même s'il y a des jeux qui ne te proposent pas des sentiments positifs, il y a toujours un petit quelque chose, il y a toujours... Là, on est dans un truc sombre, dur, violent, du début à la fin, et c'est difficile, quoi. Ouais, et pour moi, simplement, c'est une pure tragédie, même plus longue, on me l'a fait remarquer aussi, plus longue que ne peut l'être un film ou une pièce de théâtre, c'est 2 heures, et puis après, tu respires. Mais c'est pour ça aussi que c'est assez unique. Et même les autres jeux qui sont sombres, je trouve que c'est pas... Je sais pas, il y a toujours un peu d'humour. Il y a même dans Edith Finch, par exemple, qui est un autre jeu qui est profondément sombre, il y a une petite note d'espoir à la fin. C'est tragique, mais nostalgique. C'est pas juste dur et ça t'agresse pas à la gueule, même s'il y a des scènes, moi, dont je me souviendrai toute ma vie dans Edith Finch. Mais bon, donc il y a cet aspect. Et puis, le cœur de l'histoire, évidemment, c'est la mort de Joel, qui a beaucoup frustré énormément de gens, mais qui est hyper bien faite, parce que justement, c'est un truc que tu n'attends pas. Le pire qu'ils auraient pu faire, enfin pas le pire, mais un truc qui aurait été beaucoup trop facile, ça aurait été de faire une longue histoire avec Joel et Ellie, et à la fin, Joel qui sacrifie pour sauver Ellie. Ça aurait peut-être été bien si on avait eu ça, mais ça aurait été, par rapport à ce qu'on a eu là, hyper bateau, parce que là, Joel meurt au début de l'histoire, et toi, t'identifies totalement à Ellie parce que tu veux pas perdre ce personnage qui, entre parenthèses, est quand même l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, quoi. Tout ce qui se passe après la fin de The Last of Us 1, toutes les personnes qui meurent, toutes les personnes qui sont victimes de l'infection, c'est à cause de Joel. C'est lui qui est responsable de tout ça. Pour aller dans les comparaisons douteuses tout de suite, tu vois, enfin, je sais pas, Pol Pot, Staline, Hitler, c'est de la gnognotte par rapport... Toute l'humanité est condamnée à vivre avec cette infection à jamais parce qu'il a fait ça. Et ça, c'est un truc qu'on voit pas du tout dans le premier, ou qu'on voit, genre, c'est dans le background, mais on est tellement attaché, c'est tellement bien fait, leur relation, que quand même, on se dit, on le comprend un petit peu, et ouais, bon, c'est bien qu'il ait sauvé Ellie, machin, et c'est de là que vient l'émotion, mais au début du deuxième... Tu es attaché à Joel, et le fait qu'il le tue, tu dis mais non, quoi. Tu ressens la même... Enfin, pour certains, moi, je m'attendais à ce qu'il meure, mais tu ressens la même frustration envers le personnage d'Abby, voire envers Naughty Dog, que ressent Ellie. Et ça, narrativement, c'est hyper fort. Et puis ensuite, et je vais te donner la parole, mais je crois que les gens qui l'ont aimé, les gens qui ne l'ont pas aimé, ce jeu, se divisent en 2 catégories qui sont très clairement associées à les gens qui ont aimé la seconde partie, donc le voyage avec Abby, et les gens qui n'ont pas aimé. Il y a plein de gens qui disent « Ah, mais cette deuxième partie du jeu où on joue Abby, c'est un détour. » Mais c'est pas du tout un détour, c'est tout le propos du jeu. Tout le propos du jeu, c'est de te montrer les différentes perspectives, sur plein de points d'ailleurs. Mais le jeu, sans cette deuxième partie, l'ensemble du jeu, c'est pas on joue Ellie et puis on arrive au moment du théâtre et on veut savoir ce qui se passe avec Ellie dans ce théâtre. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est que tu joues Ellie, tu vis tout ça et puis tu arrives au théâtre et on te dit « Ok, on sait ce que tu ressens maintenant, mais attends une seconde, on va te montrer un autre point de vue sur tout ça. » Et ça peut paraître facile comme artifice, mais en tout cas sur moi, ça a complètement fonctionné parce que quand j'ai laissé à Ellie dans ce théâtre au bout de 10-12 heures de jeu, je ressentais les choses d'une certaine manière, et quand je suis revenu dans ce théâtre après avoir joué Abby pendant 10 heures, je ressentais les choses d'une toute autre manière et je savais plus ce que je voulais qu'il se passe, quoi. Et si ça a pas fonctionné sur vous, ça, c'est normal que vous n'aimiez pas le jeu parce que c'est tout le propos du jeu. Et on pourrait en parler en détail, mais je te laisse la parole.
Ouais, non, mais là, t'as dit beaucoup de choses et surtout, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à tout ce que tu viens de dire. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que cette façon de, enfin, cette façon dont il t'impose en fait le fait de jouer la meurtrière de Joël quand même, tu vois, au début. Bon, ce qui est intéressant, c'est que en fait, Abby, tu l'incarnes quasiment dès le début. Tu as une séquence avec elle, tu sais pas du tout qui c'est, tu sais pas pourquoi elle est là. Tu te dis bon, mais tu te doutes qu'il y a quelque chose. Tu vois, tu te dis c'est bizarre, elle cherche quelqu'un. Tu te doutes qu'il y a un lien avec avec Joël, avec ce qui s'est passé. Voilà. Après, il y a le meurtre de Joël qui est en plus un meurtre extrêmement violent. Tu vois, ça, on dirait du Michael Haneke, quoi. Il se massacre un coup de club de golf, quoi.
Et le coup de, d'ailleurs entre parenthèses. Déjà, le premier choc, c'est ce coup de fusil à pompe dans le genou. Parce que tu le genou qui explose et tu dis mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il ne peut pas s'en remettre de ça. Enfin, au minimum, il a perdu sa jambe. Mais tu ne fais pas ça à ton personnage principal. Déjà, ça, c'est... Mais tu te dis, même là, tu te dis, mais attends, ils vont pas le tuer. C'est pas...
Après, moi, je m'y attendais un peu, entre guillemets.
Oui, moi aussi.
Depuis le début du jeu, bon, c'est quoi, ça fait une heure de jeu à peine. Joël est vraiment soit invisible, soit vraiment au second plan. Tu vois, tout de suite, tu comprends que. Enfin, j'ai l'impression qu'ils te font comprendre que, ok, ce sera pas l'histoire de Joël contre un contrat. Enfin, ouais. Sauf que voilà. Après, ça, je l'ai déjà dit vite fait la semaine dernière, quand on a fait du jeu la semaine dernière. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est que le fait que ce jeu s'appelle Partout, c'est parce que vraiment, et je trouve que c'est fait de manière incroyable et jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est vraiment les conséquences du choix de Joël qui sont en fait qui est vraiment le pivot. Le point de départ de tout le reste en fait. Effectivement le flashback avec Abby, bah tu comprends en fait pourquoi elle veut se venger, pourquoi et non seulement donc tu apprends pourquoi et en plus tu finis par comprendre pourquoi elle veut le faire, tu finis par l'accepter en disant oui, ok, je comprends pourquoi elle veut se venger Joël, tu vois. Alors peut-être pas d'une manière aussi violente, peut-être pas comme ça, mais et c'est vrai que c'est même parfois même trop appuyé, il y a vraiment un effet de miroir en fait entre les actes d'Eddie et les actes d'Abby, tu vois, finalement.
Ah oui, il y a un miroir, un parallèle, il y a plein de trucs, les scènes dans le musée, dans l'aquarium, les scènes où elles se font attraper, enfin oui clairement.
Qui peut manquer un poil de subtilité, mais c'est histoire de qu'on ait bien compris quoi le parallèle entre les deux. Jusque vraiment à la dernière minute, je trouve que en fait, ça remet complètement, comme tu disais, ça remet complètement en perspective la fin du premier, quoi. La fin du premier, elle était incroyable. Et tu te dis, effectivement, je pense que comme beaucoup, on s'est dit, c'est magnifique ce qu'il a fait, Joël. Enfin, tu vois, genre, oui, il sauvait Eddie parce qu'effectivement, il a perdu sa fille et cette relation qu'ils ont est très importante.
Et tu plus, dis c'est un acte d'amour, il peut pas la perdre, et tu vois complètement les trucs de son côté à lui, et tu sais que oui, bon, l'humanité est perdue, ok, bon, ouais, mais c'est pas si grave parce qu'il a sauvé sa fille adoptive, tu vois, et en fait
et notamment, enfin, il y a des séquences entre les deux qui sont magnifiques dans le jeu, alors dont la fameuse séquence dans le musée des dinosaures et avec le vaisseau spatial, etc., qui est une des plus belles séquences du jeu.
Qui rappelle beaucoup la partie où elle joue à un jeu vidéo dans Left Behind.
Left Behind, exactement. Oui, c'est un peu le même type de
game, mise en scène,
gameplay, mais de séquence, quoi, de mise en scène. Du coup, ça appuie encore plus ta relation avec Joël. En plus, tu comprends aussi quand même pas mal, tu comprends assez rapidement qu'ils ont été en froid pendant très longtemps. Le moment où, parce qu'en fait, ce qui est génial, ce qui est assez cool aussi, c'est que tu sens quand même, malgré tout, que Joël est un peu rongé par la culpabilité d'avoir fait ça. Notamment la première scène du jeu, je crois, c'est la première scène. C'est quand il se confesse à son frère et qu'il raconte ce qu'il a fait. Et son frère lui dit, ouais, moi j'aurais fait pareil. Bon, c'est intéressant comme point de vue. Ouais. Enfin, bon, bref, c'est bourré de parallèles et voilà. Et vraiment, en termes de, je trouve, de suite directe à une histoire, j'ai rarement vu un truc aussi cohérent, en fait, aussi cohérent de bout en bout. Finalement, tu vois, ça forme une espèce de ça forme un tout, en fait, qui est extrêmement cohérent, The Last of Us et The Last of Us Partout, qui est formidable. Je suis sûr que tu te fais un marathon et t'enchaînes les deux d'affilée. En tout cas, scénaristiquement parlant, ça se tient, mais vraiment parfaitement, quoi. Ouais. Donc vraiment, c'est formidable. Et juste pour terminer, c'est vrai que le personnage d'Abby, vraiment, moi, je l'ai vécu aussi de manière très progressive. Les premières heures avec Abby, bon, j'étais là, j'ai dit, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ouais, j'ai pas très envie de jouer avec Abby, bon, ok, et machin. Et en fait, de scène en scène, les moments où tu découvres son passé, où tu découvres sa relation avec son ex, avec Owen, où elle rencontre le moment, évidemment, où elle sauve, enfin, elle est sauvée par Yara et Lev, etc., etc. Tu apprends à l'apprécier, en fait.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et justement, tu apprends tellement l'apprécier que la fin, où tu, quand tu joues Ellie, que tu découvres ce qui est devenu Abby quand elle était prisonnière des Crotales, pour moi, ça a été un coup de poignard dans le cœur. C'était vraiment un moment extrêmement dur dans le jeu. Ça fait partie de ces moments très forts parce que justement, t'as appris à apprécier ce personnage alors que finalement, ça aurait dû être la grande méchante du jeu. C'est un jeu qui te bouscule, qui bouscule complètement tes certitudes. C'est un jeu qui bouscule tes certitudes et du coup, te fait complètement repenser la façon dont tu apprécies un personnage dans une œuvre au-delà du jeu vidéo. Et c'est vraiment admirable, quoi.
Le truc, évidemment, on parlait de parallèle, le thème du jeu, c'est la vengeance, et s'il y a une leçon à en tirer, c'est évidemment que la vengeance est complètement corrosive et détruit tout. Et parce qu'à la fin, il ne reste plus rien, tout le monde meurt. Certains, on va dire 95% des gens meurent. Il y a qui reste ? Tommy, Lev, Abby et Ellie, bon, et Dina à côté, mais tu vois, tous les groupes. Et il y en a plein qui meurent. Jesse, il meurt d'un coup. Et c'est de la violence, mais. Et tu t'y attends pas. Et c'est vraiment, ça dépeint le monde comme quelqu'un peut mourir en une demi-seconde. Et la violence, la revanche, la vengeance sont ce qui a causé tout ça. Et la vengeance, c'est intéressant parce que, au départ, tu vois en tant qu'Ellie, le personnage d'Abby comme un instrument de vengeance. Et. Il y a la chanson prophétique que chante Joel à Ellie qui dit « Si je te perds un jour, je me perdrai moi-même ». Et tout le chemin de Ellie, c'est qu'elle n'arrive pas à sortir de son besoin de vengeance et qu'elle se perd. Elle se perd, et même physiquement, ça se voit, tu vois, elle se détruit mentalement et physiquement. Et tu vois, au bout du compte, que s'il y a la vengeance dans le cœur des deux, Abby, c'est une question de justice plus que de vengeance. Alors peut-être que elle devrait pas elle-même rendre la justice avec autant de violence, mais à de nombreuses reprises, elle épargne des gens, elle épargne tout le monde. Abby, enfin pas tout le monde, c'est clairement, mais Joel, c'est le seul qu'elle a vraiment tué parce que et du coup, quand tu arrives au bout du compte avec Abby dans le théâtre, quand tu y reviens, tu es presque à vouloir effectivement tuer Ellie, ce qui est un retournement. Mais alors, évidemment, tu as des sentiments conflictuels, quoi. Mais tu vois, autant en fait le 2 te fait réexaminer la manière dont tu vois le 1, c'est vraiment le thème, je crois, de tout le jeu, c'est les changements de perspective, parce que tu vois plus Joel de la même manière. Putain, il y a un vent, il y a un orage ici, on dirait, ça commence l'orage de... Ah ouais, non, mais ça fait peur, là. C'est l'orage de la fin du jeu, tu sais.
Ah ouais,
je l'entends pas. Il y a du vent, il y a des... Bref. Et donc, tu revois Joel d'une manière différente quand t'as fait le 2, et de la même manière, bien sûr, au cours du 2, tu revois les personnages qui font l'histoire du 2 de manière différente. Mais il ne pouvait pas être plus court, parce qu'il y a vraiment... Alors, il y a un petit peu de moments où tu dis, bon, là, on n'avait pas forcément besoin de faire une heure de plus en train de faire ça, mais tu vois, peut-être que le jeu, si tu penses qu'il est trop long, avec les deux morceaux, il aurait fait 20 heures au lieu de 23, tu vois, c'est pas que tu peux... Si tu fais l'histoire uniquement avec Ellie et que tu as une heure sur Abby et puis après que tu conclues, mais ça n'a aucun sens, ce jeu. C'est juste refaire une sorte de... Enfin, c'est une sorte d'histoire de vengeance ridicule qui n'a aucune profondeur. Alors que là, quand tu vis le truc à travers Ellie, tu veux que tous ces personnages du groupe d'Abby, tu veux qu'ils meurent. Tu veux qu'il meure. Alors, dans une manière un petit peu jeu vidéo, tu te rends bien compte que Ellie est en train de se détruire elle-même. Tu le vois bien, ça, que c'est la violence, la violence, c'est méchant. OK, mais tu le ressens et tu te dis, ouais, je veux pas faire ça, il faut pas qu'elle fasse ça. La scène avec... La scène toute rouge où elle tue Nora, c'est d'une violence. Et c'est un petit peu le choix... de Joël à la fin du 2, parce que, à la fin du 1, le 1, c'est une très belle histoire avec une fin qui marque. Le 2, c'est cette fin qui marque étalée sur tout le jeu. Et quand tu joues Ellie, donc tu as envie que tous ces personnages meurent, et pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je dis que soit ça marche, soit ça marche pas, mais quand tu joues Abby, tu t'attaches à tous ces personnages de son groupe. Et donc, quand tu commences à arriver au point où Ellie a tué ses amis, ces gens qui sont devenus des personnes que tu connais, enfin Owen, qui est quelqu'un de... Et tu sais ce qui va se passer, t'arrives dans l'aquarium à la fin, quand il est passé avec Ellie, t'as tué le chien, tu t'en fous, quoi. T'as... Ah putain, ce sale chien, voilà, barre-toi. Mais quand il revient avec Ellie, avec Abby, tu sais que tu vas ouvrir la porte et que Alice, elle est morte, le chien, il est mort. Et puis tu sais que tu vas ouvrir la porte non seulement à Owen... Mais en plus, Mel, qui était enceinte, et c'est le truc qui a finalement cassé Ellie, mais tu n'as pas envie d'ouvrir cette porte. Et s'il n'y a pas tout ce passage du jeu avec Abby, cette séquence n'a pas de sens, elle ne porte pas. Donc...
Disons qu'il faut le temps qu'il a fallu aux développeurs pour installer ça et installer l'empathie en fait qu'on peut avoir envers Abby. Et je pense que c'est clair que ça n'aurait pas pu se faire en une heure ou deux de jeu ou même en 3-4 heures. Pour moi, dans le passage avec Abby, il y a quasiment rien acheté. Effectivement, le passage dans l'hôpital, tu vois, tu te dis à la fin, putain, encore un truc où je dois aller descendre au troisième sous-sol, me taper désinfecté.
Tu parles du 1 là.
Et comment ?
Tu parles du 1 quand tu dis le passage dans l'hôpital. Non. Ah, pardon, non, avec Abby, oui. Non, avec Abby, le monstre bizarre à la fin.
Cela dit, voilà, ça donne l'occasion d'un des combats de boss les plus cool, je trouve, du jeu, avec un monstre absolument dingue. D'ailleurs, ouais.
Je le trouvais un peu exagéré.
Ça, c'est plus en termes de gameplay, c'est vrai que, enfin, pas en termes de gameplay, pardon, c'est vrai que les infectés, tu sens clairement, effectivement, comme tu disais, que ça reste, c'est devenu assez secondaire dans l'univers du jeu. Et il n'y a pas beaucoup de variété et en termes de je crois que c'est quoi les nouveaux infectés, c'est ceux qui sont silencieux là, qui sont très bien d'ailleurs, que j'aime beaucoup, et les espèces de gros machins qui lancent des trucs toxiques, bon, qui sont pas très méchants. Mais cela dit, par contre, les infectés sont extrêmement utilisés dans toutes les séquences de fuite. Encore une fois, les séquences de fuite, elles sont géniales, vraiment.
La séquence quand Ouais, vas-y, je sais de laquelle tu vas parler.
En fait, il y en a plusieurs. Il y a la toute première séquence avec Abby, où elle est sauvée in extremis par Joël, qui est incroyable. Et il y a la séquence dans la forêt de nuit, où tu t'échappes avec tes scars, après avoir été pendu, là, qui est folle aussi, où tu as justement tous ces infectés silencieux qui sont à court de toi. Et c'est des séquences que moi, chaque séquence de fuite, ça a toujours été un plaisir à faire, à jouer, incroyable, quoi.
Il y a aussi la séquence, alors on en parlait du musée et de l'espace qui est le moment de respiration fou du truc qui te donne justement un petit peu de portée à la relation entre Joël et Ellie. Et justement, quand on découvre, on parlera de la fin dans une seconde, mais quand on parle de séquence mémorable, il y a aussi la séquence du sniper qui est là encore mettre le jeu au service du, comment dire, le gameplay au service du propos du jeu. Ou la séquence du sniper quand t'es sur le pont, tu le détestes, ce sniper. Et c'est suffisamment bien fait pour que tu te doutes pas que c'est Tommy qui est derrière. Tu dis, bon, il y a plein de personnages que ça pourrait être. Mais tu dis, mais c'est qui ce sniper de merde là? Et tu le détestes. Et tu te dis, quand tu arrives au bout du pont et que tu il tue en plus Manny et tu veux le poignarder, quoi. Et puis, choc, c'est Tommy. Et tu dis, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? C'est... Enfin, clairement, si ces trucs-là n'ont pas fonctionné pour vous, si c'est toute l'histoire d'Abby, ça, et si tout ça, ça n'a pas fonctionné pour vous, évidemment, le jeu n'a pas vraiment de valeur.
Ah bah c'est mort. Ouais, c'est mort. C'est vrai qu'ils font... N'empêche, là-dessus, Naughty Dog, ça n'a pas risqué parce qu'ils ont décidé de faire confiance aux joueurs, en fait, là-dedans. En fait, est-ce que vous allez rentrer... Est-ce que vous allez accepter notre propos? Est-ce que vous allez rentrer dans tout ça? Est-ce que vous allez accepter de jouer les méchants et en même temps, enfin, de changer complètement d'avis sur les personnages, c'est vraiment risqué dans un jeu à je sais pas combien de millions de dollars, tu vois, qui est le plus gros jeu de l'année sur PlayStation 4, si ce n'est de l'année tout court. Enfin, c'est vraiment vraiment dingue que je trouve que Naughty Dog ait pu aller au bout de cette vision-là. En plus, c'est aussi bien réussi évidemment, mais ne serait-ce qu'ils ont pu le faire en fait. Ça, c'est vraiment dingue quoi.
Ouais. Et puis non, mais il y a clairement une question. On parlait de Red Dead Redemption 2 tout à l'heure. Il y a un autre élément qui est un petit peu commun, c'est que c'est du triple A, presque quadruple A dans le cas de Red Dead Redemption 2, qui est en même temps un jeu d'auteur, qui est presque un indie, parce qu'il y a une intention éditoriale, d'auteur complètement, de réalisateur, de directeur du jeu, qui est hyper forte et qui prend à contre-coup absolument les attentes des joueurs. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ça aurait été facile de faire un jeu où tu fais l'aventure de Joel et Ellie et puis des trucs durs pendant leur aventure et puis au bout de 12 heures et Joel doit se sacrifier pour sauver Ellie. Ouais, mais... Enfin bon, je suis sûr qu'il y aurait eu des moyens de bien le tourner, ça aurait été très triste, etc. Mais là, c'est un contre-pied total et une invitation à regarder les choses de manière différente, une condamnation sans équivoque de la violence qui te prend quand tu te laisses consommer par la violence, par la revanche, par l'esprit de vengeance. Il y a un parallèle, je voulais le mentionner aussi, un parallèle qui est intéressant entre... Le parcours de Abby et Lev et le parcours de Joel et Ellie dans le premier, ce qui amène Abby en fait à rejeter tout ce qu'elle a été jusque-là et à s'ouvrir un petit peu plus et à faire des sacrifices, à rejeter son ancienne vie pour protéger la personne à laquelle elle s'est attachée. C'est un parallèle intéressant, mais je voudrais qu'on parle un petit peu aussi avant de conclure de la fin du jeu, la conclusion de 3 heures qu'il y a à la fin. Bien sûr, quand on finit la scène du théâtre, on arrive dans la ferme avec Ellie et Dina et leur enfant, qui est
incroyable.
Et déjà graphiquement, c'est invraisemblable.
Ouais, c'est magnifique, ouais, c'est sublime.
Et puis, il y a vraiment là encore le réalisateur Neil Druckmann qui joue avec toi, quoi, parce que pendant toute cette scène, tu dis, ah bah c'est comme Uncharted 4, ou en tout cas, si t'as pas fait Uncharted 4, tu dis c'est la conclusion. On est à la fin. Et moi, j'avais pas envie que ça se termine comme ça. Je me disais, mais il faut autre chose. C'est pas possible qu'on nous laisse juste comme ça. Enfin, ça aurait été possible, mais... Et quand tu te poses sur le tracteur et que tu regardes à l'horizon et que Ellie dit au gamin « Ah, j'ai tellement de choses à te raconter, j'ai plein d'histoires que je voudrais te raconter. » Et tu dis « Mais c'est pas possible, là, c'est la fin du jeu, quoi. » Et puis, bon, finalement, c'est pas le cas et tu sens qu'il y a des trucs qui se passent bizarrement. Et tu sais, quand elle va dans la grange pour mettre les moutons, tu te dis « Merde !» Qu'est-ce qui va se passer, putain? Et donc, clairement, là, tu vois que pour s'en sortir de cette histoire, Ellie, elle doit vraiment toucher le fond. Et elle doit, ouais, et elle doit tout perdre. Elle doit vraiment tout perdre. Et donc, évidemment, tu as tout le passage où elle va essayer d'aller récupérer Abby. Et l'explication de pourquoi elle est tellement frustrée de toute cette situation, qui est qu'elle était complètement... Elle avait ouvert la possibilité d'une réconciliation avec Joel, avec la possibilité d'un pardon, et que Abby lui a volé ça. Abby lui a volé... Et c'est pas... Enfin, bien sûr, c'est le fait qu'elle ait tué Joel, mais on comprend que la raison pour laquelle elle peut pas lâcher cette affaire, c'est que Abby, à chaque fois qu'elle y repense, de la même manière que nous, à chaque fois qu'on repense à certains de ces trucs, ou même de trucs dans notre vie, on se dit, mais c'est pas possible que ça soit passé comme ça. Et tu peux pas, t'es impuissant. Et dans tout ce jeu, t'es impuissant. Et donc, elle peut pas lâcher l'affaire. Entre parenthèses, j'en profite pour dire une chose. J'avais toujours interprété la fin du premier comme l'idée que, en fait, Ellie savait que Joël lui mentait. Et dans ce jeu, assez explicitement, ils disent « bah non, elle ne savait pas ». Mais moi, je continue à penser qu'au fond d'elle, elle savait quand même. Tu sais, elle s'en doutait, quoi. Et elle a choisi d'accepter, mais elle s'en doutait un petit peu. Et le fait qu'elle ait été confrontée avec la réalité qu'elle ne pouvait plus esquiver, c'est ça qui a provoqué cette fureur. Mais bon, bref, peu importe. Donc, on va dire les 3 heures de conclusion, avec ce combat à la fin que tu n'as pas envie de faire, et tu tiens à toutes les deux, et le fait que finalement, elle décide de laisser Abby vivre. Et c'est là qu'elle accepte, en fait, le pardon. Peut-être qu'elle aurait dû donner à Joël, ou on ne sait pas. Enfin, là, c'est ouvert à l'interprétation de chacun. Mais... Et même sa possibilité, même ce qu'elle avait acquis de Joël symboliquement, la guitare, le fait de pouvoir jouer ce morceau de guitare, eh ben, elle ne peut plus quand elle revient dans sa petite ferme. Elle a perdu ça, elle a perdu Dina, elle a perdu sa famille. Elle a tout perdu, mais... Et à cause de cet esprit de vengeance, elle a, on pense, réussi à accepter. On sent une certaine sérénité, un début de sérénité peut-être en elle.
Oui, voilà. On sait même pas si elle retourne à Jackson. Ouais. On sait pas. En fait, on sait pas ce qu'elle devient après. Elle quitte la maison et gros plan sur la guitare. Et ce que je trouve génial, c'est que pendant tout le jeu, en fait, la guitare, c'est vraiment un fil conducteur du jeu. Bon, au-delà du fait qu'ils ont fait un vrai gameplay de guitare qui est hyper bien fait en plus. et à chaque fois qu'elle essaie de chanter la chanson de Zoël, elle n'y arrive pas. En fait, on fait toujours le début des, on fait toujours les premiers accords et tu sens qu'elle a envie de la chanter, mais elle n'y arrive pas, quoi. Et à la fin, je pense qu'elle aimerait le faire, mais effectivement, elle peut pas le faire parce que elle s'est fait couper deux doigts dans la bataille et voilà. Donc en fait tu restes quand même sur ce sentiment de frustration, je pense, mais je sais pas si le fait que cette chanson elle peut pas la chanter signifie derrière que oui elle est pas complètement en paix avec elle-même. J'imagine que ça veut peut-être dire ça, mais voilà. Et en même temps ça laisse le champ ouvert. Alors c'est pas du tout sur un troisième épisode, mais ça laisse le champ ouvert quand même à quelque chose après. Ouais, qu'est-ce qui se passe après ça... Qu'est-ce qui se passe pour Ellie? Qu'est-ce qui se passe pour Dina? Tu vois, est-ce que Dina, on imagine que Dina est partie à Jackson. Et juste, effectivement, je voudrais revenir sur le combat de la fin. Enfin, c'est vrai que c'est un combat horrible parce que t'as vraiment pas envie de le faire. T'as pas envie, en fait. T'as pas envie comme Abby a pas envie de se battre, en fait.
T'as envie que ça s'arrête, quoi. T'as envie qu'elle comprenne.
Ça s'arrête. En plus, tu vois qu'Ellie finalement sauve la vie d'Abby puisqu'elle elle la délivre. Tu t'es dit bon, en fait, elle veut la retrouver pour peut-être lui parler, pour lui pardonner. Tu vois. Et je pense que dans sa tête, c'était ça aussi. C'était peut-être ce qu'elle voulait faire. Et vraiment, au dernier moment, effectivement, il y a le moment où elle se dit non, mais je peux pas te laisser partir. Et là, elle se bat. Et Dina, enfin.
Excuse-moi, je t'interromps, mais vas-y. Que quand tu racontes ça. Et les jeux vidéo et toute forme d'art est forte parce que ça te parle à toi et à ce que tu as vécu. Ouais. Et je pense qu'on a tous vécu des moments où on avait envie de dire quelque chose à quelqu'un ou envie d'abandonner une rancœur et on pouvait pas, quoi. On s'est pas autorisé à le faire et ça te ronge et pourtant tu es victime de cette chose qui est corrosive, quoi. Et c'est tellement bien représenté dans ce moment-là. Ça m'y a fait penser.
Ouais, complètement, ouais. Et c'est vrai que moi, par un des chocs, mais j'ai déjà dit, et c'est là qu'on voit le travail admirable de technique et des artistes de Naughty Dog, c'est effectivement quand tu retrouves Abby et que tu la vois, tu vois comment elle est amaigrie, et en fait, rien que sur son visage et son physique, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a vécu chez ces mecs? Parce qu'en fait, on n'en a pas trop parlé, mais les Crotales, on les voit très peu finalement. Mais finalement, je crois que c'est peut-être eux les plus détestables de tout le jeu, quoi. Parce qu'en fait, tu comprends que c'est des espèces d'esclavagistes, horrible, t'as l'impression que c'est des camps de concentration, c'est des camps de travail ni plus ni moins, et la scène de la plage, c'est terrifiant, quoi. C'est vraiment terrifiant. Donc la façon dont ils ont modélisé Abby à la fin et que tu te bats contre elle en plus, qu'elle est à bout de force, tu t'es dit non mais et finalement quand tu comprends qu'Eddie va la laisser vivre, moi je sais que j'ai quand même poussé un soupir de soulagement parce que vraiment j'avais pas envie qu'elle la tue, quoi. Je pense que j'aurais peut-être eu cette réaction vraiment assez de rejet en disant mais non, j'avais vraiment pas envie que Ellie tue Abby, et heureusement ça n'a pas été le cas parce que là je pense que ça m'aurait vraiment peiné, quoi, tu vois.
Ouais. Oui, et puis ça aurait changé la coloration du jeu, tout l'arc du personnage. Ça aurait été... Le jeu, quand même, dans son ensemble, est très, très sombre. Et comme je disais, c'est genre le moment de la fin du 1, mais allongé sur 30 heures ou 20 heures. Et il n'y a quasiment rien à quoi te raccrocher. Quasiment rien. C'est vraiment cette descente dans la noirceur de la vengeance d'Ellie. Un certain élément de ça dans Abby, mais une impuissance face à la situation. Et si, au final, Ellie avait tué Abby, mais il n'y aurait rien eu comme message ou comme conclusion à tirer. C'est juste que le monde est horrible, les gens sont horribles, tu ne peux pas te sortir de cette spirale, et voilà. Alors que là, bon, il y a quand même une certaine, pas une rédemption, mais il y a une conclusion au voyage d'Ellie. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous qui ne sont pas américains ou californiens ne le comprennent pas, et je suis sûr que la plupart des gens ne le comprennent pas, mais j'ai entendu par d'autres que, en fait, quand tu reviens à l'écran titre après avoir fini le jeu, tu sais, tu as la barque qui est sur une plage et tu as dans le fond un bâtiment et l'écran titre est différent de quand tu as lancé le jeu la première fois.
D'accord.
Et en fait, ça, c'est l'île de Catalina. Et c'est l'île de Catalina où les derniers Firefly étaient.
Ouais,
et donc, ça, tu comprends que Abby a réussi à y arriver. Donc, il y a quelques très, très rares éléments de positif auxquels te raccrocher. Et ça, c'est effectivement la conclusion. Il y a un petit peu de... Mais sinon, dans l'ensemble, le jeu est horriblement sombre. Et ouais, donc ce combat, t'as pas du tout envie que... Enfin, c'est terrible parce que...
Alors qu'à l'inverse, ce combat-là répond au combat d'avant où tu jouais Abby et là tu te bats contre Ellie, un combat qui est, je trouve, extrêmement cool à faire, entre guillemets, et en même temps flippant parce que là t'as vraiment peur de Ellie, en fait, dans ce combat-là. T'es obligé de te jouer à filtration, de te cacher, etc. Finalement tu prends le dessus, mais déjà le fait que moi j'étais dingue en me disant putain c'est dingue, ils me font affronter le personnage principal que je jouais avant, enfin tu vois, c'est ça fonctionne bien, tu vois, tu te dis pas non mais c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, etc. Non, ça marche super bien, quoi. Et effectivement, ce dernier combat, où c'est même pas un combat, c'est un massacre, parce que Abby, elle est à bout de force, tu vois, et malgré tout, elle se déforme.
Abby, elle est à bout de force et Ellie est détruite. Elle a eu son
oui, c'est vrai.
Coup de, tu vois, dans le ventre, elle est complètement... Enfin, les deux, elles sont... Et c'est en ça que je dis, Ellie a ressenti sur son physique les effets de son cheminement émotionnel, tu vois, ça se sent dans son corps aussi.
Bien sûr. Donc, un très grand jeu, vraiment un très grand jeu. Je pense pas qu'on a encore assez de recul pour le positionner par rapport à d'autres, tu vois, c'est encore trop tôt. Mais clairement, moi, c'est une expérience extrêmement marquante, tu vois, qui me reste en tête. Je crois que vraiment c'est le jeu vidéo devant lequel j'ai le plus pleuré, en fait, depuis de toute ma vie de joueur, tu vois. Je suis relativement sensible en général, donc ça m'est arrivé souvent de pleurer dans des films, évidemment, mais devant des jeux. Mais je crois que The Last of Us, de souvenirs de joueur, j'ai jamais été autant bouleversé à plusieurs reprises, en fait, dans un jeu, quoi.
Beaucoup de gens, pas beaucoup, mais j'ai entendu des critiques disant que « Ah, c'est bon, on a compris, la vengeance, c'est pas bien. Et donc, maintenant, tu vas nous expliquer pendant 10 heures que, en fait, les amis d'Abby, c'est des gens aussi et ils sont gentils. » Là encore, c'est l'histoire de si ce détour, entre guillemets, est un détour pour vous, bah ouais, ça va pas marcher. Mais pour moi, il y a vraiment un élément de, quand tu le vis dans un jeu vidéo, de cette manière, c'est différent de toute autre forme d'art. Et en plus, c'est pas juste que tu l'as compris et donc ça va, j'ai compris. C'est que tu peux avoir compris intellectuellement un truc, mais le vivre, c'est pas la même chose. On aurait pu me dire, ah ouais, en fait, tu vois, en te montrant trois photos, les amis d'Abby, en fait, c'est des gens gentils aussi, ils ont leur vie et tout. Ouais, ok, je l'aurais compris, mais si tu me montres la scène du théâtre après avoir fait en une demi-heure, avoir évacué, ouais, c'est des amis aussi à Abby, c'est des gens... Bah, ça n'a pas du tout la... Donc, le fait de vivre tout ça, et de le vivre dans un jeu vidéo, c'est... Et t'as raison, c'est unique comme expérience. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais eu aucun autre jeu vidéo qui était triste, mais il y a quelque chose de profondément comment dire, audacieux dans la conception de ce jeu-là et de réussi dans la manière dont ça a été mis en place. Et oui, on va y penser pendant très longtemps. Peut-être même, tu sais, c'est marrant parce que, comme je l'évoquais dans l'épisode qu'on a fait la semaine dernière, quand je l'ai fini, je me disais « Ah ouais, c'est un bon jeu quand même, mais pas aussi bien que le 1. » Et puis, au fur et à mesure que les jours passent, tu vois, je me dis en fait, déjà, c'est sans doute mon jeu de l'année à ce stade. Possiblement, ça va de plus en plus loin. Et je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'est pas plus audacieux, mais dans le bon sens du terme ? Parce que vraiment, en fait, le 1, pour toutes les qualités qu'il a, et ça reste l'un de mes jeux préférés de toute l'histoire du jeu vidéo, c'est un jeu qui est sympa pendant 10 heures et qui, au bout du jeu, te fait un truc que personne n'a jamais fait avant. Tu vois, alors que celui-ci, c'est un truc qui te martèle et qui a un propos. Et une... Enfin bon, bref, on se comprend. Question pour conclure. Ouais. Comme tu l'évoquais, il s'en est vendu des quintillions.
Je crois que c'est 7 millions en une semaine. Enfin,
on a eu un chiffre sur une semaine ? On a eu 4 millions en 3 jours.
Ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur lancement d'une exclu PS4 ou même d'un jeu PS4 depuis le début de la console. Quoi.
Alors, c'est 4 millions en 3 jours. C'est les jeux précédents, c'était Spider-Man qui faisait 3,3 millions et God of War qui faisait 3,1 millions en 3 jours. Ouais. Et évidemment, il y a une base installée un peu plus élevée, mais c'est clairement une explosion du record précédent. Donc, la conclusion à laquelle ça m'amène, je crois que qu'on veuille un part 3 ou pas, je pense qu'on va y avoir droit, parce que peut-être pas fait par Naughty Dog, ça serait une tragédie, mais je ne sais pas comment Sony peut dire non à tu vois, un énorme sac d'argent comme ça.
Et en même temps, mais tu sais, c'est tellement un jeu d'auteur que déjà, que ce soit pas Naughty Dog qui le fasse, ça n'a aucun sens pour moi. Et puis, si Naughty Dog dit à Sony, nous, on estime qu'on a tout dit, et à mon avis, ils sont quand même puissants. Ils ont, surtout derrière, s'ils font autre chose, une nouvelle licence, ils auront tout dit, tu vois. Je pense que pour le coup, j'espère en tout cas, parce que j'espère vraiment que ce sera la décision de Naughty Dog et de Neil Druckmann, peut-être, tu vois, de faire une suite ou pas, quoi.
Je pense que, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout, je crois que si on m'avait posé la question de est-ce qu'on veut une suite après le 1, même si moi, je pensais que ça pouvait être intéressant parce que je me disais c'est trop dommage de laisser cet univers et ces personnages, tu vois, de plus jamais les revoir, même si le premier n'appelait pas de suite. Aujourd'hui, je suis plus pour une autre suite encore que, en fait, ils ont montré qu'ils pouvaient faire quelque chose d'intéressant, de courageux avec cette suite-là. Donc c'est après, ça. Oui, peut-être qu'ils se planteront sur le 3, mais pourquoi pas ? Je veux dire, là, ils ont ma confiance, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un petit sondage sur Twitter et il y avait 50% des gens qui ont répondu qui disaient oui, pourquoi pas une suite. Et sans avoir de preuves, je pense que après le 1, on aurait eu moins de 50% de gens qui voulaient une suite parce que justement, on pensait pas que ça pouvait marcher. Et là, clairement, pour beaucoup de gens, en tout cas, ça a fonctionné. Donc peut-être, moi, je fais une confiance assez aveugle maintenant à Neil Druckmann, quoi.
Enfin, oui, moi je suis comme toi. Une suite à la base, j'en voulais pas spécialement, tu vois. C'est un jeu qui suffisait à lui-même. Et par contre, maintenant, si une suite est annoncée, je serais content parce que j'ai envie de savoir ce que deviennent ces personnages. Et voilà. Mais par contre, il va falloir quand même. Enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire après ça, tu vois, dans quelle direction ils vont
prendre. Ah oui, c'est sûr. Ah ben il faut un thème fort. Il faut. Ouais, non, voilà. J'en sais rien. Je suis pas Neil Druckmann ou un auteur, mais oui, non, mais c'est sûr que c'est. Enfin, ils ont réussi un truc assez miraculeux avec le premier. Ils ont réussi un truc assez miraculeux avec le second, alors que c'était encore plus casse-gueule parce que le premier était tellement réussi. Encore refaire le coup avec encore une fois, je peux pas imaginer. Je peux pas imaginer qu'un troisième puisse, parce que au bout d'un moment, si tu continues à faire des trucs choquants ou je sais pas quoi, tu fais de la provoque, quoi. C'est pour le principe, tu vas dans la surenchère. Alors peut-être qu'ils feront autre chose, tu vois. Peut-être que ça sera un propos complètement différent. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la question va se poser, quoi.
Ce qui est sûr, c'est qu'on était déjà, nous, loin de se douter de ce qu'on allait dire avec le 2, tu vois, de ce qu'ils allaient nous proposer. Donc, c'est pour ça que c'est impossible d'imaginer, ne serait-ce qu'imaginer à quoi pourrait ressembler un troisième épisode, quoi. Franchement, c'est
c'est sûr.
Il y a que eux qui pourraient le savoir, qui le savent aujourd'hui, ou pas d'ailleurs.
Ouais, oui, ou pas. Je suis sûr que Druckmann y a pensé, tu vois. Tu y penses forcément quand tu as des personnages dans la peau comme ça. Mais bon. Bon, écoutez, je pense que ça nous fait une jolie petite heure de discussion.
On a fait un bon tour, ouais.
Et donc, on va s'arrêter là. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire encore. N'hésitez pas à continuer la conversation sur frenchspin.fr dans les commentaires de l'épisode. Et puis, bah, on va se quitter. JK, avant de partir, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ?
Sur Internet, on peut me retrouver sur ZQSD, hein, donc podcast jeu PC, même si on va sûrement faire un numéro spécial de Last of Us bientôt à nouveau. Mmh. Voilà, on va, et aussi sur jeuxvideo.com, hein, pour des sujets tech, hardware, tout ça. Et puis, bah, ce vendredi, tiens, dans le journal du hardware, à 16h30 sur le stream, pour une émission tech assez cool. Et voilà.
Magnifique. Bah, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. Si vous voulez voir des photos de mon quotidien dans les forêts finlandaises avec les orages, vous pouvez. C'est NotPatrick sur Instagram. Et bien sûr, si vous appréciez cette émission, vous pouvez la soutenir sur patreon.com/rdvjeux. Ça prend une minute et demie. C'est accessible depuis les notes de l'émission. Vous avez le lien. Et ça, évidemment, ça aide énormément l'émission. Donc, patreon.com/rdvjeux si vous écoutez depuis un moment et que vous aimez bien ce qu'on vous propose. Je vous remercie de nous avoir écoutés et puis on se retrouve assez bientôt pour un dernier épisode avant mes vacances de quelques semaines. Donc restez à l'écoute et on se retrouve. Ciao à tous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.